Bonjour Salomé Berliouf.
Bonjour.
Vous avez travaillé en cabinet ministériel et vous avez fondé et vous présidez la première association qui accompagne des milliers de jeunes en France, dans cette France dite périphérique, ces zones isolées, grandes oubliées de la crise du coronavirus. C'est la thèse de votre dernier livre, Nos campagnes suspendues, qui paraît aux éditions de l'Observatoire. Vous y dénoncez une politique nationale qui se préoccuperait surtout des grandes villes et non pas des communes plus rurales, ces communes qui sont perçues en cette période de crise comme, pourquoi pas de temps en temps, même des havres de paix. Or, la réalité dans ces villes moyennes et dans ces villages, cette réalité, elle est très éloignée de cette image d'Épinal.
Effectivement, disons que j'ai été agacée dès le mois de mars et ensuite en réalité profondément inquiète de voir que collectivement on était en train de passer, à mon sens, à côté de toute une partie de la crise, avec cette tendance qui est très française, une espèce de réflexe pavlovien qui fait que on se tourne sans cesse vers les grandes métropoles, et on le voit bien encore ces dernières semaines, Lyon, Paris, Marseille. C'est évidemment normal de les considérer avec une grande attention puisque c'est là où le virus a été le plus actif, mais d'abord le virus est aussi ailleurs désormais. Et ensuite, notre capacité d'anticipation fait qu'on devrait pouvoir collectivement se dire la France, qui a été notamment la France frappée, le plus frappée par la crise économique de 2008, c'est aussi cette France-là qui va se prendre de plein fouet les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire.
C'est aussi la France des Gilets jaunes, d'ailleurs. Elle se rejoint à un moment.
Oui, on peut regarder effectivement, alors notamment dans la France périphérique, il me semble que c'est à peu près 8 Gilets jaunes sur 10 qui, en 2008, étaient sur des ronds-points dans des villes de moins de 10 000 habitants. Donc, il n'y a pas de hasard.
Vous dites périphérique, c'est bien intérieur, un intérieur et un extérieur.
Oui, le terme de France périphérique, donc pour replacer...
Oui, il faut le définir.
Et Christophe Guy, lui, le premier qui l'a, on va dire, démocratisé il y a plusieurs années déjà. Et donc, c'est la France des zones rurales, des petites villes, des zones pavillonnaires, de certaines villes moyennes. Et en fait, dans cette France-là, et c'est sans doute de là dont il faut partir, et c'est une des raisons qui a motivé l'écriture de nos campagnes suspendues, c'est une France majoritaire. Plus de 60% des Français vivent dans ces territoires. Les grandes métropoles, c'est 40% des Français et les banlieues, c'est 7%. Donc cette espèce de réflexe pavlovien d'obsession de la grande métropole est normale, encore une fois. Mais détourner un petit peu le regard, faire un pas de côté pour se dire comment ça se passe dans les villages, dans les hameaux, dans les petites villes de France, comment ça se passe pour ces millions de Français qui vivent pendant la crise et quelles sont aussi leurs angoisses pour la suite, ça me semblait aller de soi et ça n'était pas souvent le cas.
Parce que pendant le confinement, on avait pas mal évoqué le cas de la résidence secondaire à une poignée d'heures de TGV des grandes métropoles. Ça, c'est réservé à quelques privilégiés. Ça ne reflète certainement pas la réalité du terrain.
Résidence secondaire, bien sûr, connectée.
Évidemment.
Ah oui, non, mais alors là, si vous voulez, moi, honnêtement, ça m'a même mise hors de moi de voir que quand on daignait effectivement détourner un peu le regard des grandes métropoles, c'était pour le tourner vers, et je caricature à peine, Noirmoutier, La Baule, Aix-en-Provence, là où effectivement une poignée de privilégiés avaient
10%
pu,
des familles les plus aisées,
voilà,
hein, c'est ce que vous
avaient
dites,
pu être confinées. Donc c'est effectivement des Bordelais, des Parisiens, des Lyonnais qui ont pu le faire dans des conditions privilégiées. Et ça donne une espèce d'image de la campagne qui est l'image de l'Amiricorée, hein, c'est tout à coup en province, comme disent les Parisiens, tout le monde aurait un grand jardin, une grande maison et petit déjeunerait joyeusement en famille dehors. Rappelons quand même que dans les petites villes, Moulins, Verdun, Nevers, Charleville-Mézières, tout le monde n'a pas une grande maison à la campagne avec un jardin, qui plus est au soleil.
Cela dit, par le prisme économique, la résidence secondaire, c'est aussi une théorie du ruissellement. Vous n'y croyez pas dans ce cas précis ?
De toute façon, globalement, cette théorie du ruissellement me gêne et d'ailleurs on la retrouve là avec cette vision d'une revanche des campagnes, qui est d'ailleurs le troisième étage, on va dire, de la fusée qui m'a poussée à écrire nos campagnes suspendues. On voit depuis quelques mois émerger cette idée donc d'une revanche des campagnes, qui est, si je résume brièvement, après la crise, les urbains vont se jeter vers une maison qu'ils vont acheter dans la Creuse, dans l'Ain, dans le Nord ou dans l'Allier. Je peux vous dire que ma mère était confinée dans l'Allier, mon beau-père
vous
aussi.
Vous l'évoquez d'ailleurs, voilà, dans le livre.
Je viens de de l'Allier. Et je ne crois pas qu'on voit là de vastes mouvements de population où tout à coup, les urbains passeraient outre ce qu'on voit très bien d'ailleurs dans des sondages qui datent d'avant la crise. 2019, l'IFOP montre que 57% des habitants des grandes métropoles se disent qu'ils aimeraient vivre plus près de la nature, mais aussi sec, ils évoquent les freins à ce projet, à savoir la question des transports, des services publics et évidemment de l'emploi.
Mais Salomé Berliou, vous dites aussi que ça a créé un sentiment de vulnérabilité encore plus important, et vous citez un chauffeur accompagnateur scolaire, dans le Perche, je crois qu'il est, et qui dit, les mecs arrivent, amènent le virus, et font comme chez eux, et puis ils repartent.
Oui, bah c'est vrai qu'il y a eu ce ressenti-là, et d'ailleurs, y compris dans les villes qu'on citait, Noirmoutier, l'île de Ré, où il y a eu une forme de crispation, dans un cas des habitants de ces villes. Donc, pour ne pas non plus caricaturer, je sais que certaines personnes que j'ai interrogées dans le livre, notamment des commerçants, étaient, à vrai dire, très contents de voir arriver des gens qui allaient pouvoir leur acheter leurs produits, des agriculteurs qui étaient ravis de pouvoir écouler leurs stocks, etc. Mais globalement, le sentiment général est surtout « regardez-nous ». Et ça revient, c'est pas nouveau, et vous citiez la crise des Gilets jaunes sans aller forcément dans la provocation ou dans la polémique. Ce qui est vrai, c'est que je cite notamment un élu dans une petite commune de Bretagne qui dit « on a eu le confinement silencieux, oui, mais on était là nous aussi ». Et en fait, je trouve ça dingue qu'on ne soit pas capable collectivement d'avoir cette intuition que c'est pas parce que les habitants des départements éloignés du virus, c'est pas parce qu'ils n'ont pas fait de bruit, c'est pas parce que par définition ils sont plus loin des grandes métropoles, c'est pas parce que leur quotidien avait l'air plus discret qu'ils n'ont pas souffert, et surtout qu'ils ne souffriront pas plus demain. C'est en fait, à vrai dire, la crise de 2008 devrait servir d'exemple.
Ouais. Ce retour à la Terre, dans votre livre, un chapitre évoque l'une des motivations, c'est la crainte d'une prochaine crise alimentaire, hein, crainte bien réelle pour cette coiffeuse de Melun, je crois, dont vous citez les paroles dans votre livre. Elle avoue d'ailleurs avoir un peu honte de penser cela, d'imaginer une crise alimentaire.
Elle disait, en gros, c'est vrai que j'ai eu peur d'avoir faim, et en réalité, en France, effectivement, me disait-elle, on sait bien que ça n'allait pas être le cas, et on a vu une mobilisation des pouvoirs publics, pour le coup, qui, dès le départ, et notamment dans les collectivités territoriales, d'ailleurs, disait, ne vous inquiétez pas, vous allez manger. Mais au-delà...
Il y a tout de même eu, au-delà des élus locaux, le chef de l'État qui, au début de la crise, a appelé à rebâtir notre indépendance agricole et donc notre indépendance alimentaire. Ça vous a rassuré, ça ?
Oui.
Vous n'étiez pas inquiète ?
Moi, à titre personnel, je n'étais pas forcément inquiète, mais ce dont vous parlez, ça montre aussi et ça attire l'attention sur toute la question des agriculteurs et des agriculteurs pendant la crise. Et si vous voulez, à nouveau, je trouve qu'on a tendance à avoir une vision biaisée, si ce n'est limitée, de la façon dont ça s'est passé pour eux, avec une forme de discours autour des circuits courts qui montre que les circuits courts, la vente directe, ont pu tirer leur épingle du jeu pendant la crise, et certains des agriculteurs que j'interroge le montrent bien, mais c'est quand même un agriculteur sur 10 qui estime avoir pu tirer son épingle du jeu grâce à la vente directe. La réalité pour les autres agriculteurs, et j'ai cherché à en interroger à travers toute la France, des agriculteurs d'une part, mais aussi, enfin vous l'avez lu, mais des artisans, des commerçants, des
porteurs. Ils ont dû jeter du lait, racontez-vous.
Voilà.
Garder des bêtes qui auraient dû aller à l'abattoir. Les viticulteurs ont eu un manque à gagner d'un milliard et demi d'euros. Pour les récoltes, on n'a pas trouvé de main d'œuvre.
Ils se sont sentis extrêmement seuls. Il y a des enjeux économiques qui étaient déjà lourds avant la crise et qu'ils sont encore plus. Et avec aussi des exemples, j'ai cherché à essayer d'aller voir là où on regardait le moins. La question par exemple des centres équestres, c'est des territoires où vous avez des poney clubs, des centres équestres, des entraîneurs qui tout à coup se retrouvent dans une situation économique lourde de conséquences. Et ça se fait à bas bruit. Et je pense vraiment que je vais vous redonner un exemple concret qui va dans ce sens-là, mais dans ces territoires, si vous voulez, ce qui m'est vraiment remonté, c'est le fait que la crise sanitaire se rajoute à une forme de crise. Hein, c'est ce que j'ai appelé la crise dans la crise. Je vous donne un exemple qui illustre ça. Ce jeune dans les Hauts-de-Vosges qui me raconte, pendant le confinement, il m'écrit après et il me dit, voilà, je pense que les urbains, aujourd'hui, dans les grandes métropoles, découvrent ce que nous, à la campagne, on vit 365 jours par an, 24 heures sur 24.
On va y venir justement à cette jeunesse que vous abordez longuement dans ce livre, Nos campagnes suspendues, la France périphérique face à la crise, que vous signez Salomé Berliou aux éditions de l'Observatoire, préface de Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018. Cette jeunesse, donc parlons-en, dans ces communes plus éloignées, plus isolées, 40% des moins de 20 ans vivent dans des villes de moins de 25 000 habitants. En quoi cette jeunesse a-t-elle subi la crise plus douloureusement que dans des métropoles, que dans des grandes villes?
Donc là, on aborde, c'est vraiment tout le travail de Chemin d'Avenir depuis des années. On accompagne individuellement, vous le disiez, plusieurs milliers de jeunes désormais dans ces territoires éloignés des grandes métropoles. Nous avions écrit, et vous nous aviez reçu d'ailleurs avec mon co-auteur Erki Maillard, Les Invisibles de la République, il y a bientôt 2 ans pour attirer l'attention sur cette jeunesse et montrer à quel point est-ce qu'elle était dans l'angle mort des pouvoirs publics et des dispositifs d'égalité des chances.
Parce que vous dites qu'ils sont comme effacés, ces jeunes, de la carte mentale des inégalités en France. C'est-à-dire que même par exemple à l'Éducation nationale, il y en a certains dont on ne tient pas compte.
Oui, alors je pense, j'ai le sentiment par rapport à quand vous nous aviez reçu il y a 2 ans, que en tout cas cette prise de conscience, elle existe un peu plus. Et qu'on voit bien que certes, la grande pauvreté est dans les grandes métropoles, mais que la situation est un peu plus complexe que ça. 80% des classes populaires aujourd'hui vivent dans la France périphérique. Donc on a des jeunes qui, au quotidien, cumulent un certain nombre d'obstacles, à commencer par
l'emploi,
à commencer par le manque de confiance en eux et l'autocensure et ce thème de « c'est pas fait pour moi parce que je viens de la campagne », la fracture numérique sur laquelle on pourrait revenir aussi.
Les stages,
les opportunités qui n'existent pas forcément à côté de chez eux. Et donc tout ça, c'est fait effectivement sans politique publique dédiée aux jeunes de ces territoires. La crise arrive, et c'est ce que je m'efforce de raconter en donnant la parole à des jeunes, à leurs parents, à leurs professeurs, à leurs chefs d'établissement, partout dans ces petits villages et ces communes de France. Et à partir de là, je vois 2 ou 3 gros enjeux. La question de la connexion à Internet. On a beaucoup parlé de la fracture numérique à l'échelle nationale et de la façon dont cette rupture pédagogique pour les jeunes pouvait se faire. Mais on a très peu regardé le fait que globalement, les zones blanches, c'est dans ces territoires-là. Et je cite des professeurs qui disent « Comment voulez-vous que j'en veuille à mes élèves de ne pas se connecter quand moi-même je n'ai pas Internet chez moi ?» Donc ça existe. Et puis d'autre part, à plus long terme, et après ces décrochages scolaires douloureux, vous avez la question notamment de l'orientation. Des jeunes qui sont loin des grandes métropoles, loin des opportunités, notamment académiques et professionnelles, et qui...
Et pour les étudiants, il faut choisir rester ou partir, et rester, c'est souvent une stigmatisation.
Donc c'est en fonction du territoire, finalement.
Oui, c'est un avenir qui est déterminé par une histoire de kilomètres. Et donc ça n'est absolument pas réglé aujourd'hui.
Vous parliez de la fracture numérique. Sur le projet de la 5G qui fait débat en ce moment, il n'y a aucun projet pour les villes moyennes, et encore moins les petites communes.
Mais en tout cas, la 5G, donc je ne doute pas qu'à l'échelle nationale ce soit un vrai sujet, mais j'en ai parlé encore récemment avec des habitants, alors pour le coup de l'Allier, du village dont je viens, qui me disent « Oui, bon, Salomé, c'est sympa la 5G, mais la seule chose c'est que nous, on a déjà pas de réseau à la maison, on doit aller dans le jardin pour pouvoir envoyer un SMS, c'est de ça dont il est question. »
Les priorités ne sont plus les mêmes.
Et peut-être juste pour finir sur l'exemple du jeune dont je parlais tout à l'heure, ce qu'il pointe du doigt, c'est cette espèce de lame de fond qui fait que la crise sanitaire dans ces territoires, et les témoignages le montrent bien, vient se rajouter à des difficultés structurelles. On pourrait dire que c'est une France qui est structurellement confinée. Et donc lui me dit, les Parisiens se sont tout à coup rendu compte que c'était compliqué de ne pas avoir de médecins facilement à proximité. Bienvenue chez nous, on est dans des déserts médicaux. Que c'était compliqué d'avoir Internet qui débloquait un peu à la maison. Bienvenue chez nous, c'est toujours le cas. Que le bureau de poste qui ne marche pas aussi bien que d'habitude, ça pouvait être complexe également, nous n'avons pas de bureau de poste dans notre commune, et que c'était pas très agréable de ne pas avoir de café dans lesquels se réunir avec ses amis. Nous n'avons pas de café non plus, sauf que les urbains, me dit-il, après la crise, ils vont retrouver leur quotidien, et nous aussi.
Sur les jeunes, il y a tout de même quelques réponses apportées par le gouvernement. Ce sont des réponses que vous estimez encore une fois réservées aux au premier de cordée?
Ce sont des réponses qui sont nationales pour l'instant, avec des vrais éléments. Effectivement, les cordées de la réussite qui se déploient, et ça faisait partie des préconisations du rapport que j'ai rendu à Jean-Michel Blanquer au printemps dernier. La question des internats de l'excellence, le plan jeune dans son ensemble.
Mais ça n'irrigue pas jusqu'au plus profond des campagnes.
Mais en tout cas, ça ne règle pas le fait qu'il n'y a pas de politique publique ciblée sur ces jeunes et depuis des décennies.
Quand
alors qu'il y a une politique de la ville, notamment.
Quand le Premier ministre Jean Castex, fraîchement nommé, ne parle que de territoire, ça devrait vous rassurer, le territoire.
Oui, bah écoutez, moi je trouve ça plutôt révélateur et je le dis dans le livre, hein, qu'on part de tellement loin quand on voit à quel point est-ce qu'on s'est tous extasiés d'avoir un Premier ministre qui avait un accent chantant, qui prononçait 25 fois le terme de territoire dans son discours de politique générale, puis 33 fois le lendemain au Sénat. Je n'ai aucun doute quant au fait que Jean Castex connaît ses territoires, il en vient effectivement.
Au moins il ne les confond pas avec les quartiers populaires, comme c'est le cas de certains politiques.
Tout à fait, et il entend traiter manifestement et les uns et les autres, mais une fois qu'on a dit ça, cette espèce d'enthousiasme à l'idée qu'un Premier ministre prononce le terme de territoire, excusez-moi, mais encore heureux, enfin, ça montre bien à quel point on part de loin, justement.
Sur les handicaps, vous évoquiez la fracture numérique, il y a aussi les déserts médicaux, et dans votre livre, un long chapitre sur les personnes âgées, ce désert médical, pour les retraités, c'est une source d'angoisse supplémentaire.
Ah oui, ça c'est la même chose, c'est-à-dire qu'à nouveau, on a beaucoup vu, et encore une fois, je ne veux absolument pas minimiser ou opposer quoi que ce soit, minimiser la souffrance et l'angoisse des personnes âgées dans les grandes métropoles. Mais effectivement, quand on compare un petit peu en profondeur, dans les territoires ruraux notamment, où comme on le sait, il y a beaucoup de personnes âgées et souvent peu de médecins, hein, je cite un politique local qui me rappelle qu'aujourd'hui, 5% des jeunes médecins se disent prêts à aller travailler dans ces territoires et dans ces zones rurales, donc ça montre bien qu'on est quand même là aussi loin du compte. Et pour les personnes âgées dans ces territoires-là, c'était à la fois l'isolement et le confinement, avec des exemples basiques, hein, mais par exemple aller applaudir à la fenêtre le soir et donc voir des visages, pouvoir éventuellement aller acheter sa baguette de pain le soir, et puis avoir éventuellement une voisine qui met les courses dans l'ascenseur pour qu'on n'ait pas à sortir. Tout ça, ça n'est pas réservé aux personnes âgées dans ces territoires qui, je cite une personne de plus de 80 ans qui me dit, je ne sais pas ce qui est le pire, le coronavirus ou l'extrême solitude. Et on voit bien que dans ces territoires-là, ça a été vraiment la double peine.
Il y a cette retraitée, Jeanne, je crois, qui vous explique qu'elle ne va pas applaudir à 20h parce qu'elle se sent ridicule, toute seule, oui, face à sa campagne, à ses arbres.
Et on la comprend.
Et on la comprend, évidemment. L'une de vos craintes, finalement, c'est que le monde d'après ne soit pensé et destiné essentiellement qu'envers les métropoles.
Ce qui est vrai, c'est que quand on regarde un petit peu ce qui est pensé depuis plusieurs semaines maintenant, on est dans une logique par les grandes métropoles, pour les grandes métropoles. En tout cas, il faut faire attention à nouveau à cette tendance-là. Je vous donne un exemple. Bien sûr, il est important de réfléchir à la végétalisation des toits à Paris.
Oui, mais enfin, c'est pas un toit végétalisé, voilà, qui va résoudre les problèmes. Et de l'autre côté,
exactement. Je suis ravie de pouvoir prendre mon vélo pour aller faire les courses. Mmh. Et la multiplication des pistes cyclables, c'est bien et c'est important. Mais on voit bien, et encore une fois, les élus parisiens, urbains, c'est normal qu'ils s'intéressent à ces sujets, mais à l'échelle du pays, la question des ruches supplémentaires qu'on va installer sur certains toits de grands magasins, je ne peux pas croire que ce soit une priorité, si vous voulez.
Il nous reste quelques secondes. Quelle suite a été donnée au rapport que Jean-Michel Blanquer vous avait commandé l'an dernier, que vous lui avez remis en début d'année? Je rappelle que vous étiez à la tête d'une mission de réflexion sur la jeunesse des villages. En quelques secondes, ça a débouché sur quoi?
Bah, écoutez, par un hasard de calendrier, je l'ai rendu 10 jours avant le début du confinement. Et donc, j'ai revu Jean-Michel Blanquer il y a quelques jours pour justement réfléchir à l'actualité des 25 préconisations que je faisais. Donc, c'est à suivre.
Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'en tout cas, grâce à votre livre, c'est peut-être le début d'une mémoire et d'une histoire du désarroi qui doit s'écrire.
J'espère. Ça fait partie des objectifs. Faire en sorte que dans le récit mémoriel de la crise, on entende aussi les voix de ces millions de Français en dehors des grandes métropoles.
Et votre association, donc, Chemin d'Avenir, dont vous êtes la fondatrice et présidente. Merci beaucoup,
merci
Salomé
vous,
Berliou. Je rappelle le titre de votre livre, Nos campagnes suspendues, la France périphérique face à la crise. C'est paru aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup d'être passé ce matin à France Inter.
Merci.
Et bonne journée.